Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi au téléphone, Louise Bianchi, responsable de la comédie itinérante au sein de la Comédie de Valence. Louise Bianchi est venue nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu à trois endroits différents de la Drôme, Luz-la-Croix-Haute, La Chapelle-en-Vercors et Luc-en-Diois. Donc on précisera les dates tout à l'heure. Louise Bianchi, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler de la comédie itinérante au sein de la Comédie de Valence? Quelle était la volonté initiale pour lancer ce type de manifestation?
Alors, c'est un projet qui a commencé au sein de la Comédie de Valence, qui est le Centre dramatique national Drôme-Ardèche, il y a à peu près 10 ans. Et la mission et la volonté initiale, c'était de proposer des spectacles de théâtre dans les villages de Drôme et d'Ardèche. Aujourd'hui, c'est un projet qui a un peu évolué et qui concerne à la fois toujours les villages de Drôme et d'Ardèche, mais aussi les villes de l'agglomération et les quartiers de Valence. Donc on présente entre 5 et 7 spectacles par an de théâtre et maintenant de danse aussi, dans ces endroits-là, dans les salles des fêtes. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est parce que vous vouliez que la culture aille au-devant des citoyens?
Oui, c'est une véritable mission de service public qui est défendue par le Centre Dramatique National, qui est d'apporter la culture à tous les publics, où qu'ils soient, et peu importe la distance géographique ou sociale.
Et ça, vous avez pu constater, vous, dans votre histoire, que les gens pouvaient avoir quelques appréhensions à aller voir des spectacles à Comédie de Valence, proprement dite, qui vous auraient poussé à aller au-devant des citoyens?
Pas nécessairement, mais c'est simplement qu'on sait que sur un territoire aussi étendu qu'à Drôme et l'Ardèche, Valence n'est pas à la portée de tout le monde, simplement parce que, par exemple, si on habite à Ballon, dans la Drôme, on est à 2h30 de Valence, qu'on trouvait ça important de recréer des mini-salles de théâtre partout sur le territoire.
Vous me dites que vous en faites à peu près 7 par an. Depuis combien de temps?
Donc on présente 7 spectacles par an, ça représente à peu près 80 dates de représentation, et ça dure depuis 2000.
Qu'est-ce que ça représente pour la Comédie de Valence? C'est un épiphénomène ou c'est quelque chose de vertébrant?
Non, c'est un projet qui est central au sein des missions du CDN. L'objectif de la Comédie de Valence, c'est de défendre la création, la diffusion de spectacles, mais aussi l'éducation artistique. Et au cœur de ce projet-là, la comédie itinérante a vraiment toute sa place.
Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'organisation? Est-ce que c'est compliqué à gérer? Est-ce que vous avez besoin d'un matériel spécifique, des camions? Comment vous faites pour trouver les salles en fait? Comment ça se passe?
Alors, on est en lien avec des communes ou des associations. Donc, toute commune de Drôme et d'Ardèche peut nous contacter. Et on travaille aussi beaucoup avec des associations d'habitants, donc associations culturelles ou sociales, peu importe, qui ont envie d'accueillir un spectacle dans leur village. Et dans ce cas-là, ils nous contactent et ensemble, on monte un partenariat qui est assez simple, où l'association ou la commune s'engage à accueillir le spectacle. Et nous, on arrive le matin même avec un camion, du matériel, des techniciens. Et on installe, on transforme la salle des fêtes en salle de spectacle. On transforme vraiment complètement la salle pour que le soir le spectacle ait lieu et ensuite on mange avec les habitants. Enfin, voilà, c'est vraiment une journée partagée avec les gens du village. Et voilà, et en général, on passe un très bon moment.
Mais ça doit être assez lourd comme organisation, parce que vous me dites un camion, des techniciens, c'est peut-être même très cher.
C'est la mission du Centre Dramatique National d'assumer en lien avec le Conseil Général de la Drôme, celui de l'Ardèche, la Région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes et l'État. Ça fait partie de nos missions d'apporter la culture à tous. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on fait ça. Donc la participation financière des communes est à hauteur du nombre d'habitants de la commune. Donc c'est vraiment une participation symbolique au financement du spectacle qui est en très grande partie assumée par la comédie.
Et par des financements complémentaires, comme vous m'avez cité, la DRAC ou je ne sais quoi, vous êtes financé parallèlement pour assumer cette mission?
Oui, oui, on est financé par ces financeurs-là qui sont les collectivités territoriales.
Après vous, Monsieur Bournat, qui est le metteur en scène de la pièce de théâtre que vous allez nous proposer, L'Apprenti, oui, va venir nous en parler, donc on va peut-être pas s'apesantir non plus sur le spectacle, mais parlez-nous quand même un petit peu de celui-ci pour nous dire comment ça s'est fait, si c'est vous qui avez été les chercher, comment ça s'est fait, pourquoi vous avez choisi de mettre ce spectacle à l'affiche dans ces trois petits villages de la Drôme?
Alors Richard Brunel, qui dirige la Comédie de Valence avait envie de connaître le travail de Sébastien Bournat, qui avait envie d'accueillir un de ses spectacles, d'où le fait qu'on accueille l'apprenti cette année. L'autre particularité, c'est que c'est un texte d'un auteur australien qui s'appelle Daniel Keane, qui donc écrit pour le jeune public. Et c'est Séverine Magua, qui est une traductrice qui fait partie du collectif des artistes associés à la Comédie de Valence, qui a fait la traduction de ce texte. Donc pour nous, ça avait du sens de proposer ce texte-là sur le territoire. D'ailleurs, Séverine Magua fera des ateliers de traduction avec des élèves collégiens de l'agglomération de Valence autour du spectacle. Voilà, donc c'était l'envie d'accueillir un spectacle qui soit familial, jeune public, mais qui soit porté sur un texte fort et intéressant qui parle de la transmission entre les générations. Voilà, et tout public, à partir de 8 ans.
Dans votre communication, vous nous avez proposé, donc je vais faire un appel aux auditeurs, hein, de faire gagner des places pour ces spectacles. Alors, si je me rappelle bien, il n'y a pas des places à gagner dans tous les villages, il n'y en a que 2 sur 3, si je ne m'abuse. Hein.
À Luce-la-Croix-Haute et à Luc-en-Diois.
Voilà, alors je ne sais pas pourquoi à La Chapelle, ils n'ont pas le droit de gagner une place.
Oh, on peut dire 2 à chaque fois. Hein.
D'accord. Donc, chers auditeurs, si vous avez entendu cet appel et que vous souhaitiez voir aux dates que nous allons pas tarder à citer le spectacle L'Apprenti, téléphonez-nous à la radio, on prendra vos coordonnées et d'une façon ou d'une autre, on fera en sorte que vous puissiez entrer gratuitement pour voir ces spectacles. Avis aux amateurs. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions justement sur ce qui va se passer, quand et les tarifs par exemple ?
Alors, donc le spectacle sera présenté notamment à La Chapelle en Vercors la semaine prochaine, donc le 8 janvier à 19h à la salle polyvalente du collège. Ensuite, le jour suivant, le 9 janvier à Luc-la-Croix-Haute, à la salle des fêtes. Et vendredi prochain à Luc-en-Diois, à la salle des Vaucons, toujours à 19h. Comme c'est un spectacle tout public, on le propose assez tôt. Pour les tarifs, le spectacle est accessible entre 2 à 12 euros selon les ressources financières. Mais le plein tarif est à 12 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.
D'accord.
Voilà, et à l'occasion de ce spectacle, on fera aussi des interventions dans les écoles primaires, donc à Luce-la-Croix-Haute, au collège de La Chapelle en Vercors et aussi à l'école primaire de Luc-en-Diois, où on va aller avec les comédiens rencontrer les élèves de l'école.
Et si d'aventure des gens souhaitaient avoir quelques renseignements complémentaires sur cette prestation, cette manifestation, je suppose qu'ils peuvent trouver sur le site de la Comédie de Valence des renseignements, voire un numéro de téléphone ?
Tout à fait. Donc sur le site internet, il y a toutes les informations du spectacle sur www.comediedevalence.com et vous pouvez réserver des places au 04 75 78 41 71.
Il faut réserver plutôt ?
Oui, c'est mieux de réserver.
Très bien. Eh bien, Louise Bianchi, je crois qu'on va se quitter là. On va maintenant accueillir Monsieur Bournac, metteur en scène de L'Apprenti, qui va nous parler plus précisément de ce spectacle. Louise Bianchi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne année aussi.
Merci beaucoup, bonne année.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, toujours au téléphone, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Sébastien Bournac, metteur en scène de la compagnie Tabula Rasa, qui est basée à Toulouse et qui va nous proposer aux 3 dates suscitées le spectacle Apprenti, un spectacle jeune public. Monsieur Bournac, bonjour.
Bonjour.
Alors tout simplement, peut-on commencer à nous expliquer que propose ce spectacle L'Apprenti et que doit-on en retenir ?
Alors, L'Apprenti, c'est avant tout un texte de Daniel Keane, un dramaturge australien, et c'est un texte pour tous les spectateurs, qui m'a touché pour sa simplicité, et qui raconte l'histoire d'une rencontre assez improbable, farfelue, entre un jeune garçon d'une douzaine d'années et un adulte. Et cet enfant va faire une étrange demande à l'adulte. Il va lui demander de devenir son père à la place de son père. Voilà. Alors, c'est pas une pièce sur un drame social, un enfant qui serait maltraité, battu, pas du tout. C'est juste un enfant un peu capricieux, qui n'est pas satisfait de la relation qu'il a avec son père et qui décide de s'en choisir un autre. Voilà le point de départ. Et ce qui est magnifique dans cette pièce, c'est qu'on suit l'évolution de cette relation entre ces deux êtres. Il y a seulement 2 personnages. Pendant toute une année. Et la pièce est écrite de la manière suivante. L'auteur a écrit 1 scène par mois. Donc il y a 13 scènes. Ça va de avril à avril sur toute une année. Donc on voit l'évolution de cette relation, les crises, les moments de joie, et le grandissement aussi de chacun dans cette relation-là, puisque bien sûr il est question d'apprentissage et que l'apprentissage est le fait de autant de l'enfant que de l'adulte, puisque l'enfant a choisi comme père potentiel l'adulte le moins apte à assumer cette fonction. Sinon, ce serait pas drôle.
A-t-il de bonnes raisons de vouloir changer de père ou est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est un caprice et à ce moment-là, ce ne serait pas justifié, il faudrait peut-être lui serrer la vis à cet enfant?
Non, il n'a pas. En fait, je pense que c'est la pièce questionne en profondeur les relations. C'est vrai que on a des parents, mais qui parmi nous n'a pas rêvé de changer de parents? Enfin, c'est un des grands thèmes de. On a joué beaucoup dans les classes et on a rencontré beaucoup d'enfants et il y en a au moins 50% qui avouent systématiquement avoir rêvé d'avoir d'autres parents que les leurs. On rêve le monde autrement. Enfin, et l'enfant croit qu'il est une sorte de dieu dans son monde et qu'il peut tout faire. Donc il n'y a pas de raison objective pour cet enfant de vouloir changer de père, sauf qu'il a un père qui est sans doute très accaparé par son travail, qui rentre tard, qui lui consacre peu de temps. Et dans ses temps de loisirs, l'enfant, à la jumelle, décide de se choisir un autre père parce qu'il est en quête sans doute d'une relation plus profonde et il a un besoin d'encadrement qui n'est pas assuré par ses parents. Donc voilà, mais c'est un caprice, certes, mais c'est un caprice. Le théâtre, c'est l'endroit où on pose des questions. Donc la question que pose Daniel Keane, c'est et si on changeait, on décidait de changer nos parents, c'est tout, ça va pas plus loin. Après, c'est une pièce assez subtile qui subvertit un petit peu le rapport paternel traditionnel qui le questionne. C'est ça qui m'a plu.
Alors, c'est une pièce jeune public. La problématique concerne les enfants et les parents, donc les relations parentales. Mais en quoi ça pourrait intéresser des enfants, cette problématique, ou un jeune public?
Alors moi, je sais bien que les théâtres, souvent, mettent des étiquettes un peu rapides, ou les éditeurs aussi, puisque le texte de l'apprenti est édité dans une édition jeune public, en tout cas estampillé jeune public. Pour moi, c'est le premier texte, entre guillemets, jeune public auquel je me confronte. J'ai pas l'impression d'avoir fait un spectacle jeune public. J'ai fait du théâtre avec un texte qui me plaisait. Il se trouve que ce texte permet d'accueillir très facilement de jeunes spectateurs et que c'est assez rare, effectivement, d'avoir un texte comme ça qui, à partir de 8-9 ans, peut intéresser les jeunes spectateurs, mais qui passionne tout autant les adultes et... Après, il n'y a pas de limite. Hein. Et on a eu des salles où il n'y avait pas d'enfants. Ça marche très bien aussi. Donc, c'est pas un spectacle pour enfants. À mon avis, l'auditoire le plus parfait, c'est celui qui mélange justement les pères, les mères et leurs enfants. Parce que pendant la représentation, il y a des regards qui sont étonnants. Forcément, ce qui se joue devant eux fait écho à leur vie quotidienne. Et donc... les questions que pose Julien, le personnage, les enfants en viennent à se les poser. Ils s'identifient beaucoup à cet enfant. Les parents se trouvent questionnés par l'enfant dans leur conformisme, dans leur vie. Et ça, c'est formidable. On devrait tous être un peu titillés comme ça par des enfants. Enfin, c'est vrai qu'on s'installe dans un confort, dans une vie. Et l'enfant, c'est celui qui vient nous déstabiliser, nous remettre... dans le jeu du vivant, et c'est important.
Oui, mais alors, qu'est-ce qu'un spectacle jeune public? Parce que vous m'avez dit que ce serait réducteur de l'estampiller spectacle jeune public. Plus généralement, qu'est-ce qu'un spectacle jeune public? Pourquoi cette pièce serait susceptible d'intéresser des enfants qu'on imagine plutôt, ou des adolescents passionnés de séries américaines plus ou moins profondes, quoi?
Pas du tout, c'est vous qui le dites.
Alors, je pose des questions, hein, je peux m'excuser.
On a joué le spectacle... on le présente depuis maintenant presque 2 ans et on a rencontré beaucoup d'enfants et je crois que ce qui les passionne, c'est les questions d'avoir déjà un jeune garçon de leur âge, le plus souvent ou à peu près. Le fait que le théâtre soit contemporain, qu'il mette en scène aussi les jeunes gens d'aujourd'hui et que les jeunes spectateurs puissent se projeter, s'identifier, ça c'est fondamental. Et je crois que en plus des questions agitées par le personnage ou par la pièce, on a ici... dans la mise en scène, j'ai voulu un dispositif bifrontal. C'est-à-dire que les spectateurs se font face et tout se joue au milieu. Et ce qui plaît, justement, vous parliez de cinéma américain, enfin, la pièce a quelque chose de très cinématographique puisqu'elle est écrite en séquence. Et je propose aux spectateurs d'assister aussi à la fabrication du spectacle. Et du coup, comme le spectacle se joue devant eux, au milieu d'eux, les jeunes spectateurs sont... vraiment dans l'action. Ils ont l'impression d'être dans la scène. Il n'y a pas de distance entre le spectacle et eux. Donc ça les passionne. Et souvent, quand on reçoit des lettres comme ça, après spectacle, qu'on entend des commentaires, ce qui leur plaît, c'est qu'ils étaient dedans la scène. et on travaille avec l'imaginaire des spectateurs. Et ça, c'est un spectacle profondément ludique, je crois, dans sa fabrication. En tout cas, on l'a voulu comme ça, très participatif.
C'est-à-dire que vous interagissez avec le public ?
À certains moments, il y a des interactions assez légères, mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Enfin, on va, vous savez, s'il fallait représenter toutes les scènes que la pièce propose, il nous faudrait de gros décors, puisqu'on est tantôt dans un café, tantôt dans un intérieur, tantôt dans une église, tantôt dans un parc. Donc, on ne peut pas tout représenter. Et puis, le théâtre, c'est pas forcément ça. Donc, on est obligé de trouver les bons signes, les bons éléments, les bons accessoires qui vont permettre ensuite aux spectateurs, eux, de voir beaucoup plus que ce qu'il y a sous leurs yeux en réalité, effectivement. C'est ça notre travail, c'est de stimuler les imaginaires des spectateurs et les jeunes spectateurs particulièrement. Pour eux, c'est très facile de voir plus que ce qu'on leur donne. Il suffit, vous savez, d'avoir un ballon et de faire 2-3 passes pour être dans un grand parc. On a aussi travaillé avec la bande-son, ce qui permet aussi d'amener des bruits du monde comme ça et d'aider. Mais en fait, il y a très peu d'éléments, le décor. Je crois que ce qui plaît aux enfants, c'est de ne pas se trouver devant un spectacle un peu, entre guillemets, classique, scolaire, mais d'être partie prenante de la représentation et en plus d'être face à quelque chose qui leur parle très directement, quoi, qui les concerne. Parce que c'est le théâtre, c'est pas forcément que Molière. Souvent, ils ont cette image-là de représentation scolaire un peu contraignante. Et non, là, ça parle d'aujourd'hui, ça parle d'eux, ça parle de notre monde. Ça, ils le sentent, bien sûr.
Vous m'avez dit que vous étiez au centre, les spectateurs sont d'un côté et de l'autre, c'est ça ? J'ai pas très bien compris.
Comment... Oui, mais c'est un dispositif bifrontal, c'est-à-dire qu'il y a les rangées de spectateurs se font face. Il y a deux parties et la scène est au milieu.
Mais ça veut dire que les comédiens montrent alternativement leur dos ou leur face à une partie ou l'autre du spectateur.
Absolument, ça veut dire qu'on voit pas tous la même chose, oui.
Vous n'hésitez pas à être très moderne, puisque l'unité de lieu et de temps du théâtre classique, vous le faites exploser. Ça se passe sur 13 mois et dans plusieurs lieux.
C'est pas moi qui le fais exploser, c'est l'auteur, mais moi je le mets en scène.
Et alors ce texte était spécifiquement dédié à une pièce de théâtre ?
J'ai exactement monté la pièce, il n'y a eu aucune adaptation, c'était le texte même, tous les mots du texte, c'est un texte destiné au théâtre absolument.
Mais vous l'avez eu tel quel ou vous avez dû le traduire ?
En fait, il a été écrit, comme l'auteur est australien, il l'a écrit en anglais et il a une traductrice française, puisqu'il c'est un auteur qui est très traduit et très présent sur les scènes françaises. Donc, il a été traduit ce texte et moi je l'ai eu en traduction.
Non, c'est parce que Louise Bianchi, que j'ai interviewé précédemment, m'a dit que la traductrice interviendrait lors d'ateliers dans la Drôme.
Absolument, parce qu'il se trouve que la traductrice, Séverine Magua, fait partie du collectif artistique de la Comédie de Valence.
Ah d'accord, donc c'est elle qui l'a traduit et donc elle l'a
traduit. Je la connaissais, elle a traduit ce texte, elle n'était pas encore au collectif artistique de Valence, puisque Richard Brunel n'était pas encore en poste, puisque c'est un texte qui a été écrit, je crois, en 2008-2009. Moi je l'ai lu à ce moment-là, il se trouve qu'après, Séverine Magua, la traductrice, a rejoint le collectif de Richard Brunel, mais voilà. Très simplement, c'est un concours de circonstances et c'est vrai que le fait que Séverine soit dans ce collectif artistique, qu'elle connaisse le travail de la compagnie et le spectacle, a sans doute facilité la venue du spectacle André Marbès.
Comment vous avez été mis en contact avec Daniel Kilm ? Vous m'avez dit que vous avez travaillé à plusieurs reprises sur cet auteur.
Oui, j'ai monté plusieurs textes de cet auteur australien. Enfin, on mène avec la compagnie de longs compagnonnages avec les auteurs et il se trouve que j'ai monté 3 pièces courtes de cet auteur et puis je lui ai commandé aussi une pièce qu'il a écrite pour moi, traduite aussi par la traductrice française Séverine Magua de Daniel Kinn et puis en même temps on m'a donné à lire voilà, L'Apprenti. Donc en fait ce projet il est arrivé au milieu d'autres projets parce que je m'intéressais beaucoup à cet auteur et que j'aimais particulièrement sa manière d'écrire les pièces d'écrire pour les acteurs et que voilà, donc pendant 3 ans j'ai été en contact avec lui grâce à sa traductrice. Il est même venu à Toulouse passer 15 jours, on a travaillé ensemble. Donc voilà, c'est tout un parcours qu'on a eu avec Daniel Kinn.
Cette démarche qui est très originale de ce garçon qui voudrait changer de famille, forcément induit une remise en question du père. Est-ce que, sans vouloir déflorer la fin de l'histoire, est-ce que ça se termine bien quand même ? Est-ce que, justement, ça les fait suffisamment évoluer pour que cette relation soit plus satisfaisante ?
Ben oui, il ne faut pas tout raconter, mais je crois qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, ce qui fait le succès de ce spectacle et de ce texte auprès du public, c'est que c'est une histoire pleine d'amour, une histoire heureuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ce qui est possible, ce qui n'est pas dans le monde dans lequel on vit. Voilà, est-ce qu'on peut changer de père, est-ce qu'on ne peut pas changer de père, est-ce qu'on peut... Y a, la question du possible et de l'impossible est au cœur. Mais une fois qu'on a agité toutes ces questions, la résolution de la fable est extrêmement heureuse et c'est pour ça qu'on peut quitter la salle avec un grand sourire sans oublier ce qui s'est passé, ce qu'on a traversé. Mais ça, c'est, à mon avis, c'est ce que les spectateurs aiment.
Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce thème de cette pièce, c'est que souvent, lorsqu'il y a un problème, les gens le prennent sur eux et se disent « oui, c'est comme ça, ça ne peut pas bouger ». Et ce jeune garçon a dit « non, ça ne me plaît pas, je vais agir ». Quelle que soit la sortie de cette crise, le fait d'avoir verbalisé qu'il y avait un problème force les protagonistes à évoluer. Et c'est ça qui, moi, me parle d'entrée de jeu, quoi.
Ah ben, mais je crois que c'est exactement l'endroit où j'ai eu envie de travailler. C'est pour ça que le texte est subversif. C'est qu'effectivement, tous les autres garçons dans la vie ordinaire n'auraient pas fait formuler cette demande d'un nouveau père, mais que lui, il le fait, parce qu'au théâtre, les choses sont un peu extraordinaires et que tout d'un coup, effectivement, il y a quelque chose qui existe, qui est extrêmement subversif et qui questionne nos habitudes au quotidien. Ça, c'est vraiment important et qui nous questionne notre passivité dans le monde dans lequel on vit. Et on n'a pas à accepter les choses telles qu'elles sont, on peut les décider autrement. Après, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas, mais c'est pour ça que l'apprentissage se fait à double sens dans ce texte.
Donc on a toujours intérêt à exprimer le fait qu'on soit un petit peu perplexe, voire mécontent. Vaut mieux l'exprimer en fait.
Toujours intérêt à agir et à bousculer les choses qui semblent établies et définitives, parce qu'au fond, peut-être que notre capacité d'action est plus grande que celle qu'on croit. Il ne faut pas se résigner.
C'est beau, c'est un beau message, rien que ça.
Ah ben pour moi c'est essentiel. Il faut bousculer l'ordre du monde et l'ordre des choses. Et nous n'en serons que plus joyeux.
Quand bien même c'est une institution qui semblerait quand même inaliénable, on ne peut pas remettre en question un lien génétique.
Ben, peut-être qu'il faut le bousculer, le questionner pour le refonder. Et peut-être qu'une fois qu'on a posé les questions, et ben, c'est l'amour entre un père et son fils, et ben, sera plus fort.
Donc mort au non-dit et à l'acceptation passive, quoi.
Non à la résignation.
Non à la résignation, ouais, j'abonde. Peut-être maintenant pourriez-vous nous parler de votre compagnie, Tabula Rasa, qui veut dire table rase justement, si je ne m'abuse.
Ça veut dire table rase, oui.
Vous aimez bien justement donner des coups dans la poussière, quoi.
Ouais, je crois que c'est une des fonctions même du théâtre, parce que on va pas convoquer comme ça des spectateurs dans une salle pour leur montrer la banalité des choses du monde dans lequel on vit. Pas du tout, il faut leur montrer des choses un peu extraordinaires qui effectivement nous questionnent. Nous, avec la compagnie Tabula Rasa, déjà on a décidé de travailler essentiellement sur des écritures contemporaines et de le faire en lien avec des auteurs vivants, parce que on pense que le théâtre doit être une création de part en part, et qu'on passe des commandes d'écriture, on travaille vraiment avec les auteurs, ça nous plaît, on fait du théâtre, un théâtre de textes, de paroles, c'est important, et on essaie d'inventer des formes aussi de spectacles qui permettent aux spectateurs d'être à des endroits inattendus parfois, comme là avec l'apprenti dans ce dispositif bifrontal, mais on a essayé d'autres configurations, on essaie un petit peu de... Et puis ce qui est important pour nous, c'est que ce travail sur les écritures contemporaines, on puisse l'amener à la rencontre des publics. Ça, pour nous, c'est essentiel aussi. On est sur, vous savez, la région Midi-Pyrénées est la plus grande région de France. Il y a 7 départements, c'est un territoire immense. Bon, il y a quelques grands centres comme Toulouse, quelques grandes villes, Albi, Cahors, Tarbes, mais il y a beaucoup de territoires un peu éloignés. Donc, il faut amener le théâtre à la rencontre de ces autres spectateurs. Et du coup, on est une compagnie qui est très présente et qui se déplace beaucoup sur le territoire de Midi-Pyrénées et au-delà maintenant. Mais c'est vrai que notre théâtre, c'est la région, c'est l'espace. On joue partout. On joue aussi bien dans un centre dramatique national, comme à Toulouse, au Théâtre National, que dans des salles des fêtes de petits villages. Mais je crois que c'est ce que fait la Comédie de Valence. Et c'est pour ça aussi qu'on a été invité, j'imagine.
Je suppose. Daniel Keane, vous avez l'air d'avoir travaillé avec lui un certain nombre de fois. Alors, en tant que béotien du théâtre, c'est un auteur que j'ignore. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous dire pourquoi ce texte a retenu en particulier votre attention ?
Alors, Daniel Keane, c'est un dramaturge australien. Moi, je l'ai rencontré, enfin, j'ai eu la chance de rencontrer ses textes il y a déjà une quinzaine d'années quand je suis arrivé à Toulouse. Jacques Nichet, dont j'étais le collaborateur, montait une pièce de Daniel Keane qui s'appelait Silence Complice. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Séverine Magoa. Du coup, j'ai eu un premier contact avec cette écriture-là, et puis bon, j'ai continué à acheter ses textes, à lire les œuvres que Séverine m'envoyait. Et en fait, il écrit deux types de pièces. Il écrit des grandes pièces, et il écrit aussi des pièces plus courtes, qui sont comme des petits poèmes. Et j'avais décidé, en lisant ces pièces courtes, justement, d'en choisir deux ou trois et de faire un spectacle pour aller à la rencontre des gens. C'est un auteur qui, moi, me touche parce qu'il met sur la scène des gens extrêmement simples, des gens du quotidien. On n'a pas des rois, des reines, c'est pas des gens extraordinaires. Et je trouve que c'est un théâtre qui donne la parole aux personnes humbles, aux démunis, aux gens un peu des marges, défavorisés. Et en plus, il leur donne la parole dans une belle langue. Moi, c'est ça qui me touche. Tout d'un coup, c'est un auteur qui est capable de parler de la plus grande misère sociale et en même temps de la sublimer. Il parle de la solitude avec laquelle on vit au quotidien et comment, tout d'un coup, la rencontre entre deux êtres, c'est le cas avec l'apprenti, peut changer le monde et faire qu'on regarde autrement ce qui nous entoure. Donc moi, c'est ça qui me touche dans cette écriture-là. Et puis, voilà, le fait d'avoir des grandes pièces, d'avoir monté des grandes histoires avec plusieurs actes, et puis en même temps des plus petites choses, des pièces de 3 pages. Enfin, j'aime bien ces configurations différentes.
Et alors, pourquoi ce texte en particulier ?
Ben, ce texte, j'ai l'intention de le monter, mais j'étais en résidence en Aveyron, justement, et je travaillais sur la mise en scène de Dreamers, notre texte de Daniel Keane, et le conseil général de l'Aveyron, pour tout vous dire, m'a demandé de faire une proposition pour aller tourner dans des collèges. Ils avaient envie de montrer du théâtre dans les collèges. Donc, moi, j'étais sur d'autres productions à ce moment-là, donc j'ai pas pu faire un spectacle, mais j'ai pu proposer, parce que j'avais aimé ce texte-là, l'apprenti, une lecture théâtralisée avec deux comédiens, donc, de cette pièce extrêmement simple, comme ça, parce que il me semblait qu'on pouvait aller partout, dans des salles de classe, jouer ça. Et ce qu'on a fait, les comédiens avaient le texte en main, mais c'était déjà très scénographié. Déjà, il y avait le bifrontal. Et puis progressivement, ça s'est très bien passé. Le temps, il y a quelques mois après cette tournée, se sont écoulés. Et puis on m'a demandé pourquoi je n'allais pas plus loin avec ce texte, parce que les premières présentations en lecture avaient beaucoup séduit. Donc voilà, après il se trouve que j'étais en résidence à la scène nationale d'Albi. Et on m'a demandé de monter un spectacle tout public. Et voilà, je me suis dit, je vais aller plus loin avec l'apprenti, je vais créer l'apprenti. Mais j'ai l'impression que ce texte est arrivé dans ma vie un peu comme Julien arrive dans la vie de Pascal. Vous voyez, il fait irruption, mais c'était pas un choix. Je suis pas a priori un metteur en scène qui travaille seulement pour les enfants, même que mon des textes parfois plus durs, donc c'est compliqué. Mais là, ça a été avec l'apprenti, c'est un peu une parenthèse. C'était un moment extrêmement heureux. C'était une création qui s'est faite dans la joie, dans la bonne humeur. C'était vraiment formidable. Et puis en plus, si ça peut rendre les spectateurs heureux, alors là, c'est très réjouissant. Le théâtre a vraiment un sens avec tout ça.
Alors vous m'avez dit que ce spectacle, vous l'avez lancé il y a à peu près 2 ans. A-t-il encore un avenir ?
Oui, c'est vrai que c'est un spectacle qui a une histoire très longue. Puisque oui, je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé en lecture théâtralisée dans les collèges. C'était à ce moment-là en 2010. Oui, il y a bientôt 4 ans. Après, on a créé le spectacle avec la scène nationale il y a 2 ans, en 2012. On va passer la centaine de représentations là, et ça va continuer la saison prochaine, puisque on est en train de construire une tournée au Québec, qu'il y a pas mal de demandes sur le territoire national. Donc on a fait il y a quelques semaines un festival en Mayenne avec beaucoup de programmateurs. Donc c'est un spectacle qui, dans son format, tourne très facilement, donc effectivement, il est beaucoup demandé. Et en plus, avec l'équipe, c'est un petit bijou qu'on a envie de faire vivre le plus longtemps possible, oui.
Parce que quand vous faites un spectacle comme ça, vous avez l'énergie et la disponibilité de lancer, voire de faire plusieurs spectacles en même temps ?
parce qu'une fois maintenant que l'apprenti existe, il tourne sur des périodes qu'on définit, où les comédiens sont disponibles. Mais moi, à côté de ça, j'accompagne le spectacle, mais j'ai des temps pour faire d'autres créations. J'ai fait d'autres créations depuis et j'en prépare d'autres. Moi, je ne suis pas acteur dans le spectacle, donc je n'ai pas tout à fait à la même place. Je le regarde grandir.
Oui, mais je suppose que les acteurs qui sont impliqués dans le spectacle sont déjà relativement pris par celui-ci. Est-ce qu'ils ont l'énergie et la disponibilité intérieure pour apprendre d'autres textes et incarner d'autres personnages?
C'est pour ça qu'on définit ensemble des périodes de tournée. On peut pas, le spectacle n'est pas disponible tout le temps. Mais là, par exemple, entre janvier et mai, il tourne énormément. Mais il a très peu tourné en début de saison. Il tourne beaucoup maintenant. Après... Il y a d'autres périodes qui sont définies pour la suite, et avec les gens qui souhaitent accueillir le spectacle, on discute. Mais je crois que ce qui est bien pour les acteurs, c'est d'avoir ce spectacle qui est un fil conducteur. Ils le retrouvent régulièrement, mais entre ça, ils ont vécu d'autres expériences de théâtre, et je crois que ces autres expériences nourrissent leur travail d'acteur et fait qu'ils retrouvent l'apprenti avec une certaine joie et avec plus de maturité peut-être. Donc c'est un spectacle qui évolue beaucoup avec les acteurs. Patine comme le bon vin.
Donc, vous conseillez instamment à tous les spectateurs de 7 à 77 ans de venir à Luc, à la Chapelle en Vercors et à Luce-la-Croix-Haute aux dates que nous avons déjà citées.
Je le conseille absolument. Je pense qu'ils vivront une expérience théâtrale qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Oui.
Eh bien, Monsieur Bournac, j'espère que ça va bien se passer pour vous et je vous souhaite une bonne continuation.
De m'avoir ouvert votre antenne.
Mais c'est avec plaisir.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.